Eh bien, la première fois que je suis allé au CRLC, j'ai été envoyé par l'ANPE, donc Cap Emploi, et c'est comme ça que j'ai débarqué au CRLC. J'ai rencontré la directrice et qui m'a descendu à l'ESAT, et après, voilà. J'ai fait un premier journée à l'ESAT. Mon objectif, c'était de m'aider à retrouver du travail, parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais au chômage et que je galérais pour trouver du travail.
Alors moi, c'est l'assistante sociale de l'hôpital de Tulin qui m'a dirigé vers le CRLC. J'ai rencontré l'équipe mobile au grand complet avant de voir l'ergothérapeute venir à domicile.
Moi, je suis allée au CRLC pour la première fois au mois de septembre et j'ai rencontré toute l'équipe, la responsable, l'ergothérapeute, la psychologue, l'assistante sociale et la neuropsychologue. Et on m'a présenté tout le monde et on a vu ensemble ce qu'on allait faire. On a pris rendez-vous, j'ai pris rendez-vous avec chacune de ces personnes pour m'aider à faire avec mes difficultés et puis être aidée psychologiquement. Et puis qu'on m'explique mes tests neuropsychologiques aussi, voilà, choses comme ça.
Bah, le CRSC, ça me fait du bien, parce que ça me permet de rencontrer des amis, parce que suite à l'accident, tous mes amis que j'avais, ils sont tous partis pratiquement. Je vois plus aucun de mes amis. J'en vois un très rarement, mais ça arrête là. Tous mes amis, ils sont envolés, quoi.
Eh ben, c'est très bien passé. Je suis allé pour faire un bilan informatique, pour voir où j'étais niveau informatique. Et c'est très bien passé avec un prof très bien, tout ça. Ça apporte un peu d'autonomie quand même. Ça permet de voir un peu les propositions d'activité qu'il y a, le boulot, tout ça, quoi. C'est pas mal.
CRLC, j'ai fait des belles rencontres. Et ben, j'ai connu Lionel à travers CRLC. Et puis, qui me faisait sortir. Il y a 7 ans aussi, qui me faisait sortir pour me promener dans Grenoble, qui je suis là un peu longtemps. Donc, je connais certaines parties et beaucoup de monde. Et depuis que je suis tombé malade, 90% de mes copains, je ne les vois plus. Et je sais que c'est mon handicap, peut-être, qui le fait, je ne sais pas. Je connais aussi le ZEM à travers la même personne, Lionel, qui a eu l'aimabilité de m'amener là. Donc je commence à trouver mon bonheur, à peu près, parce que aussi les personnes qui sont là sont sympas.
Un jeudi de janvier, sans mot de tête, est allé à la rencontre de l'équipe du centre de ressources pour lésés cérébraux afin de comprendre comment le CRLC s'est construit et comment il nous aide dans notre quotidien.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire en quelques mots qu'est-ce que le CRLC?
Donc, CRLC, ça veut dire Centre Ressources pour lésés cérébraux. C'est un choix volontaire d'appeler les choses par leur nom. On a un ensemble de services qui accueillent et qui accompagnent les personnes qui ont eu une atteinte cérébrale acquise, que ce soit par accident ou par maladie. Donc, selon les cas de chaque personne qui nous sollicite. Et on a un certain nombre d'équipes. Chaque équipe a une mission différente. On a une équipe médico-sociale pour les enfants cérébro-lésés, donc des enfants jusqu'à 20 ans. Vous avez passé l'âge tous, hein, je pense. Donc équipe mobile enfants et adolescents qui accompagne des enfants dans leur retour à la maison après la sortie de rééducation, dans la reprise de la vie de tous les jours en famille, dans leur retour à l'école et dans leur choix d'orientation, donc que ce soit sur une scolarité ordinaire avec des aménagements ou s'il faut changer d'orientation scolaire du fait des séquelles de l'accident ou la maladie. Donc cette équipe-là accompagne les enfants le temps qu'il faut. On a la même équipe pour les adultes que certains d'entre vous ont déjà connus. Et cette équipe-là a comme mission d'aider les adultes qui sortent de rééducation à reprendre le cours de leur vie quotidienne, à retrouver de l'autonomie, à se mettre en lien avec le GEM, par exemple, à retrouver un maximum de capacités. Sur sortir, avoir des activités, retrouver un peu le cours de sa vie sociale et personnel. Donc ça, c'est l'équipe mobile pour adultes. Troisième équipe, l'équipe UEROS, qui est une unité d'évaluation et d'orientation sous forme de stage, 5 mois, pour construire un nouveau projet, alors soit d'insertion professionnelle, soit en faisant l'impasse, en disant « moi j'ai assez travaillé et puis comme j'ai certaines difficultés, je laisse le travail de côté, je vais faire d'autres choses ». Ça c'est certains stagiaires et d'autres qui travaillent beaucoup avec Sophie sur où est-ce que je vais pouvoir travailler, quelle orientation professionnelle je vais choisir. Donc ça c'est l'UEROS, troisième équipe. Quatrième équipe, on a un ESAT hors les murs. Donc c'est une structure de travail protégé, mais qui n'a pas d'atelier de production, comme d'autres ESAT peuvent avoir, que vous connaissez peut-être. Donc l'ESAT hors les murs aide les personnes à avoir un lieu de mise à disposition dans une entreprise, une association, un établissement public, à la poste, à IKEA, ça peut être n'importe où. Une mise à disposition avec un accompagnement proche d'un chargé d'insertion pour aider à trouver sa place donc sur une activité professionnelle. Donc un statut protégé, mais on va travailler n'importe où, pas dans un atelier où il n'y a que des personnes dans l'ESAT. Donc ça, c'est quatrième équipe chez nous, ça s'appelle l'ESAT, le métronome. Il y a pas mal de personnes du métronome qui fréquentent aussi le GEM dans leur temps libre. Et puis cinquième équipe, c'est notre équipe SPAS. SPAS a une mission d'accompagner les personnes sur leur projet d'insertion en milieu ordinaire du travail, donc un contrat ordinaire, un CDD, un CDI, sur n'importe quelle activité professionnelle. C'est une équipe qui est actuellement réduite parce qu'on a des problèmes de financement sur l'insertion professionnelle, mais ça fait partie des équipes du CRLC.
Entre le 4 et le 5 de votre présentation, c'est l'insertion professionnelle de quelqu'un qui est cérébro-lésé. Ouais. Et numéro 4, donc c'est une insertion parmi les équipes de l'entreprise. C'est donc protégé. Et la différence avec le 5, je ne comprends pas.
C'est administratif, le statut, et c'est le niveau d'exigence. C'est-à-dire, si on a une place en ESAT, on est pris en charge dans un établissement médico-social. On est protégé, on a forcément l'AH et on travaille à mesure de ses capacités. C'est-à-dire, si on ne peut travailler que 3 heures le matin sur une tâche simple et que ça convient bien, l'ESAT va chercher ce type d'activité dans n'importe quel lieu de travail, entreprise, avec une aide importante sur site dans l'entreprise.
D'accord.
Si on relève de SPAS, on a un contrat de droit commun, comme n'importe quel d'entre vous qui a déjà eu une activité professionnelle ou qui a encore une activité professionnelle actuellement. Donc on a un contrat de travail avec un employeur qui nous paye pour faire un boulot, et ce qui est dans notre contrat, on a à faire.
Donc vous accompagnez le travailleur sur
On accompagne dans le sens où on est là pour conseiller l'employeur, pour soutenir le salarié, mais on n'est pas présent au travail. D'accord. On ne va pas au travail avec les personnes.
Vous aidez l'employé à négocier des conditions de travail agréables avec l'employeur.
Au mieux.
Voilà.
Et on aide les personnes à trouver un emploi, surtout. En amont d'arriver dans une entreprise, on aide la personne à choisir son orientation et trouver un emploi qui correspond. Donc on aide beaucoup moins dans SPAS. On a affaire à des personnes qui ont plus d'autonomie. Et l'ESAT a une équipe plus conséquente pour soutenir les personnes sur leur projet professionnel.
Avant le CRLC, il y avait quoi ?
Le CRLC a été créé il y a un peu plus de 20 ans par des professionnels qui étaient des rééducateurs en centre de rééducation. La plupart d'entre vous ont dû passer par un centre de rééducation à un moment ou à un autre dans votre parcours. Un certain nombre de rééducateurs, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, on avait nos anciens patients de centre de rééducation qui nous téléphonaient une fois sorti du centre de rééducation en disant « Je viens de perdre mon boulot, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ou bien « Je découvre que j'ai oublié de payer mon loyer depuis 6 mois et j'ai des soucis, maintenant on veut me mettre dehors, qu'est-ce que je dois faire ?» Et on s'est dit, nous, on est des rééducateurs, on fait de l'orthophonie, on fait de l'ergothérapie, on n'en sait rien ce qu'il faut faire. Donc on s'est dit, comment ça se fait que personne n'accompagne les personnes après leur retour à domicile, où c'était en gros, bah voilà, vous n'avez plus besoin de soins, débrouillez-vous. Donc on s'est dit, bah on va quand même essayer de construire quelque chose qui est après l'hôpital, après les soins, parce qu'on sait bien qu'après une atteinte cérébrale, on a besoin, alors pas d'être accompagné tous les jours, tout le temps, forcément, mais d'avoir un coup de main, des conseils, du soutien à différents moments du parcours. Donc, progressivement, on a construit des outils, mais toujours en partant de quoi les personnes qu'on accueille peuvent avoir besoin. Ça a commencé par le travail. Les gens disaient, je veux retourner travailler. Et il faut que quelqu'un m'aide à travailler. Donc, on a créé SPAS. Après, c'était, j'arrive pas à m'en sortir chez moi tout seul. J'arrive plus à faire mes courses. J'arrive plus à payer mes factures. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à domicile? Donc, on a pu créer l'équipe mobile. Bon, il n'y a pas que nous comme équipe mobile. Hein. De l'autre côté du département, dans le Nord-Isère, il y a la même chose à Tulin, hein, à l'hôpital de Tulin, à son équipe mobile pour le Nord-Isère. Donc c'est comme ça qu'on a créé le CRLC. Et j'ai envie de dire, en réponse à la question, avant, eh ben, il y avait l'entourage, le médecin traitant, le kiné, l'orthophoniste libéral, et il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc voilà, le CRLC a été créé pour combler un manque, pour accompagner les personnes un peu dans la durée.
Combien de CRLC y a-t-il en France ?
Il y a des structures type centre ressources. Alors, il y en a plus en Rhône-Alpes que partout ailleurs, mais il y en a d'autres. Il y a un problème de lisibilité, parce que tout le monde ne s'appelle pas centre ressources, et les centres ressources ne sont pas forcément financés. Par exemple, nous, nos activités centre ressources, où on propose des ateliers, où on organise des événements et on accueille les personnes pour donner de l'information. Ça, c'est une activité du type centre ressources. En fait, ce centre ressources n'a pas de financement propre. Nos 5 équipes ont des financements, mais en tant que centre ressources sur le plan légal, nous, on n'existe pas. C'est assez paradoxal. Par contre, il y a des centres ressources qui font une activité comme nous. En Haute-Savoie, par exemple, il y a un centre ressources très actif. Dans l'Ain, il y a un centre ressources aussi qui fait un petit peu la même chose que nous, mais qui n'a pas du UROS dans son équipe, enfin dans ses murs. Dans d'autres régions, il y a, mais il y a effectivement des régions. Par exemple, la Bourgogne, il n'y a rien. Voilà, il y a un peu des vides sur la carte de la France. Il y a un centre ressources en Île-de-France, centre ressources francilien pour le traumatisme crânien. Alors, ils s'occupent que du traumatisme crânien. Donc, je ne sais pas ce qui existe pour les gens qui ont fait un AVC ou qui ont eu une tumeur cérébrale ou autre. Mais il y a un projet au niveau national pour créer un centre ressources national pour les atteintes cérébrales acquises. Mais c'est encore dans les tuyaux des ministères pour l'instant. Et ça met du temps à se structurer. Donc, Rhône-Alpes, vous êtes bien tombé hein, dans votre malheur. D'être en Rhône-Alpes, vous avez des outils de type centre-source. Dans d'autres départements, beaucoup moins. Il y a un peu des régions phares. Le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, un réseau spécialisé. Bordeaux.
L'Aquitaine.
Oui, voilà, Bordeaux, Aquitaine.
Aquitaine.
Ben voilà.
Transfuge.
Voilà. Alors, ils ont pas, ça ne s'appelle pas centre-source, mais il y a tout un réseau d'équipes de soutien qui fait un peu la même chose qu'un centre-source. Nantes aussi, ils sont plutôt bien lotis, et Strasbourg. Mais sinon, entre ces pôles-là, il y a un peu de vide hein, dans certaines régions. Dans les régions où il n'y a pas de centre-source, c'est souvent l'UEROS. Qui est un peu le point de l'UEROS de la région en question. Il y a 30 UEROS en France. Et c'est un peu l'UEROS qui fait office de lieu d'information et d'orientation pour les personnes.
Ça veut dire quoi, UEROS, le sigle ?
Ça veut dire unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socio-professionnelle. C'est vrai qu'il n'y a pas le P dedans, mais C'est pour accompagner les personnes vers l'élaboration soit d'un projet d'insertion socio-professionnelle.